Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Gianjopi et bienvenue à ce premier épisode d'Au cœur de l'euro. Habituellement, je suis correspondant vert et or pour CFAC et le collectif, c'est-à-dire que je couvre toutes les actualités de nos équipes sportives du vert et or. Mais comme on est l'été et que les équipes vert et or n'ont pas énormément de compétitions en ce moment, ben je me lance dans un petit projet parallèle. Pourquoi? Parce que moi, en fait, au moment où je m'enregistre, je suis présentement dans la ville de Leipzig, en Allemagne, car je suis bénévole pour l'Euro 2024, en fait, le tournoi de soccer là, qui a lieu tout au long du mois de juin et du mois de juillet en Allemagne. Je suis ici pour vivre une expérience inoubliable, mais aussi pour faire un peu de réseautage, pour peut-être avoir une possibilité là, de faire un stage au sein de l'UEFA ou dans le monde de l'antidopage, afin de terminer ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Mon objectif avec cette émission-ci, d'un point de vue personnel, vous partager mon expérience, développer mes aptitudes derrière un micro et surtout de synthétiser un peu le sport que j'aime. Mais de manière un peu plus générale, je suis là pour vous faire rentrer dans mon monde en fait, vous faire rentrer dans le monde de la plus grande compétition de soccer de sélection en Europe. Je suis là pour vous informer, mais aussi pour vous faire découvrir un sport que vous croyez connaître ou que vous désirez connaître. Bref, je ne sais pas combien de gens écouteront l'émission, mais si je suis capable au final de faire vivre ma passion du foot à ne serait-ce que quelques personnes, ma mission sera définitivement accomplie. On va donc couvrir tous les matchs de la compétition. On va parler notamment des équipes à surveiller, des joueurs à suivre, de n'importe quelle belle histoire qui peut ressortir de l'Euro. On va faire des petites prédictions ici et là et bien plus encore. Et à travers de tout ça, je vous parlerai évidemment un peu de mon expérience en tant que bénévole, le boulot que j'effectue, les moments marquants et bien sûr les matchs auxquels j'aurai la chance d'assister à Leipzig. Tout d'abord, on va commencer en répondant à la question, c'est quoi l'Euro? L'Euro, en fait, c'est un tournoi de soccer qui se tient entre 24 pays européens et qui a lieu à chaque 4 ans, un peu comme la Coupe du Monde, en fait. Cette année, comme je l'ai mentionné, il se tient en Allemagne et on y retrouve 10 villes hôtes qui vont accueillir des matchs, dont la ville de Leipzig qui en accueille un total de 4. La formule ressemble à quoi? Les 24 pays sont séparés en 6 groupes de 4 équipes. Chaque équipe va jouer une fois contre les 3 autres de son groupe. Et là, à partir de ce moment-là, les 2 meilleurs de chaque groupe vont se qualifier pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleurs 3e des 6 groupes. Ça va donc faire un tableau à 16 équipes sur 24 qui vont passer à la phase d'élimination directe du tournoi. À partir de là, c'est vraiment une phase à élimination directe. On fait donc 8e de finale, quart de finale, demi-finale et une finale qui aura lieu le 14 juillet à Berlin. Dans ce premier épisode, on va avoir la chance de parler du jour de match numéro 1, c'est-à-dire du premier match de chaque équipe de la compétition. Comme il y a 24 équipes, on va donc couvrir 12 matchs en commençant par le groupe A, dans lequel on retrouve l'Allemagne, l'Écosse, la Suisse et la Hongrie. Alors tout d'abord, le match d'ouverture du tournoi, c'était l'équipe hôtesse, l'Allemagne, qui recevait l'Écosse au stade de Munich. Alors l'Allemagne qui est une équipe historiquement très forte, qui est vraiment bourrée de talent, mais qui cette année a quand même la pression de jouer à domicile, ce qui est jamais facile. Depuis leur victoire en Coupe du Monde en 2014, c'est une équipe qui n'a plus traversé les quarts de finale d'aucun tournoi majeur, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais néanmoins, on retrouve vraiment une nouvelle génération de joueurs qui commence à faire du bruit et on retrouve également encore beaucoup d'expérience dans l'effectif, un beau mélange dans cette équipe. C'est d'ailleurs un match que j'ai eu la chance de regarder dans la fanzone de Leipzig. Il devait avoir environ 10 000 personnes qui étaient présentes. C'était vraiment une superbe ambiance. On avait 2 grosses télévisions sur une place publique qui nous permettaient de regarder le match. Et après 20 minutes à peine, c'était déjà 2-0 pour l'Allemagne. Des buts qui sont justement venus là, de 2 jeunes pépites de 21 ans. Tout d'abord, Florian Wirtz et Jamal Musiala. Ce sont d'ailleurs 2 noms qu'on risque d'entendre très souvent au cours de ce tournoi. Finalement, en fin de première mi-temps, un défenseur écossais va recevoir un carton rouge pour un tacle assez dangereux dans la surface sur le capitaine allemand Ilkay Gundogan. L'Écosse va donc être réduite à 10 joueurs et un pénalty sera accordé à l'Allemagne, pénalty qui sera converti par l'attaquant Kai Havertz. Au retour des vestiaires, c'est à peine si l'Écosse touchait le ballon, bien sincèrement. Et au fur et à mesure que la mi-temps avançait, il y a deux remplaçants de l'Allemagne, tout d'abord l'attaquant Niklas Füllkrug et le milieu de terrain Emre Can qui vont également marquer. Mais l'Écosse va tout de même trouver le fond du filet grâce à un but contre son camp, mais le résultat final sera de 5-1 pour l'Allemagne, donc vraiment dur de faire mieux là, pour commencer son tournoi. Dans le deuxième match du groupe A, on retrouvait la Suisse qui affronterait la Hongrie. La Suisse qui historiquement a toujours eu une sélection relativement bonne, mais qui a beaucoup de difficultés dans les compétitions internationales comme la Coupe du Monde et l'Euro. D'ailleurs, son meilleur résultat a été les quarts de finale qu'ils ont atteint au dernier Euro. Pour ce qui est de la Hongrie, elle a déjà eu en fait l'une des meilleures sélections au monde au milieu du 20e siècle avec des joueurs comme Ferenc Puskás et Sándor Kocsis, mais ces temps-ci, vraiment rien de spécial comme sélection. Par contre, on doit leur donner ça, il s'agit d'une équipe qui s'en vient avec un très très beau collectif qui est bien abouti. C'est une équipe qui est menée par leur capitaine de seulement 23 ans, le milieu de terrain de Liverpool, Dominic Szoboszlai, et c'est une équipe qui a plusieurs voyaient comme pouvant créer la surprise au cours de ce tournoi. Malgré tout, c'est la Suisse qui s'est imposée sur la marque de 3-1 grâce à des buts de Kwadwo Duwa, Michael Abischer et Brill Embolo. Donc après la première journée dans le groupe A, on retrouve l'Allemagne première, la Suisse deuxième, la Hongrie troisième et l'Écosse quatrième. Passons maintenant au groupe B qui est considéré dans cette compétition-ci comme le groupe de la mort. On y retrouve tout d'abord l'Espagne, la Croatie, ensuite l'Italie et finalement l'Albanie. Donc le premier match de ce groupe-ci opposait l'Espagne et la Croatie, et l'Espagne qui a sorti l'une des performances les plus convaincantes de la première journée de match en vainquant la Croatie par la marque de 3-0. On se rappelle que la Croatie a terminé respectivement 2e et 3e aux deux dernières Coupes du Monde, et même si elle a une équipe très vieillissante, on peut vraiment jamais les compter pour battus avec des joueurs comme Josko Gvardiol à la défense et l'ancien gagnant du Ballon d'Or, Luka Modric, au milieu de terrain. Du côté de l'Espagne, c'est une équipe qui a toujours été très talentueuse sur papier et qui se démarque par un style de jeu très fort sur le jeu de possession. Il est vraiment pas rare là, que ce soit une équipe qui finisse des matchs avec plus de 70% de temps avec le ballon. Mais par contre, c'est une stratégie qui peut être un peu ennuyante à regarder et surtout qui peut manquer de tranchant devant le but. Et ça, c'est vraiment ce qui leur a manqué lors des quelques derniers tournois internationaux auxquels ils ont participé. Après le match contre la Croatie, par contre, on a pu remarquer que c'est encore une équipe qui garde énormément le ballon, mais qui a su ajouter ce qui leur manquait lors des dernières compétitions, c'est-à-dire de la percussion à l'attaque. En effet, la Roja peut maintenant compter sur les jeunes Nico Williams, de 21 ans, et Lamine Yamal, de 16 ans seulement, oui, 16 ans, sur ses deux ailes pour faire très mal aux défenses adverses et pour briser des blocs bas. Et bien, finalement, c'est exactement ce qu'ils ont fait contre la Croatie. Par exemple, Lamine Yamal, qui a explosé cette saison avec le FC Barcelone, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer à l'Euro. Il a même donné une passe décisive sur le troisième but de l'Allemagne. C'est donc certainement un joueur qu'il faudra surveiller, pas seulement cet été, mais lors des prochaines saisons à venir. Dans l'autre match, on avait l'entrée en scène du champion en titre de l'Euro, l'Italie. C'est par contre une équipe qui est bien plus jeune que celle de 2021 qui est arrivée en Allemagne. Par exemple, on retrouve plus de Giorgio Chiellini ou de Leonardo Bonucci à la défense. On a plus de Marco Verratti au milieu de terrain ou on a plus de Ciro Immobile à l'attaque, par exemple. Pour ce qui est de l'Albanie, c'est définitivement le petit poucet de ce groupe, mais qui a vraiment surpris la planète foot lors de ce match en marquant après à peine une vingtaine de secondes de jeu, courtoisie de leur attaquant Nedim Bayrami. C'était d'ailleurs le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Par contre, l'Italie a complètement renversé la vapeur après à peine une quinzaine de minutes grâce à des buts du défenseur Alessandro Bastoni et du milieu Nicolo Barella pour porter la marque à 2-1. Le reste du match sera plutôt contrôlé par les Italiens, mais sans grande chance de marquer de part et d'autre. Voici donc à quoi ressemble le groupe B après la première journée. On a l'Espagne en première place, l'Italie en deuxième, l'Albanie troisième et la Croatie quatrième. Passons maintenant au groupe C. Alors dans ce groupe, on retrouve l'Angleterre, le Danemark, la Serbie et la Slovénie. Le premier match du groupe opposait la Slovénie et le Danemark et c'est un match qui s'est terminé sur le score de 1 à 1. Mais on a déjà assisté à l'un des moments les plus inoubliables de cet Euro au cours de ce match. En fait, lors du premier match du Danemark à l'Euro 2020, donc Euro 2020 mais qui a eu lieu en 2021 en raison de la COVID, ben leur capitaine Christian Eriksen a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Il a dû être escorté le plus rapidement possible hors du terrain. Heureusement, il a rapidement été acheminé à l'hôpital et son état a fini par se stabiliser. Il a évidemment dû faire un croix sur sa carrière de footballeur pendant plusieurs mois avant de revenir finalement au jeu au début de 2022. Scénario littéralement digne d'un film, ben c'est lui, Christian Eriksen, qui va ouvrir le score dans ce match, presque 3 ans jour pour jour après son terrible accident. C'est un moment qui a vraiment uni la planète foot. Tout le monde était super content pour ce joueur-là. Donc, définitivement, là, l'un des moments les plus marquants, non seulement de cet Euro, mais peut-être de l'histoire de la compétition en général. La Slovénie va cependant égaliser environ une quinzaine de minutes avant la fin du match. Ce sera d'ailleurs un premier but pour ce pays à l'Euro depuis l'an 2000, la première et seule fois qu'il s'était qualifié au tournoi. Et comme je l'ai mentionné, le match va se terminer sur un score de 1 à 1. Dans le deuxième match, on avait l'Angleterre qui rentrait dans ce tournoi comme probablement le favori des bookmakers et mon choix personnel pour la victoire finale lors de cet Euro. Par contre, leur courte victoire de 1-0 seulement face à la Serbie n'aura certainement pas convaincu. Et malgré tout le talent offensif qu'ils ont à leur disposition, on peut penser à Harry Kane en pointe, Jude Bellingham comme milieu plus avancé, Bukayo Saka et Phil Foden sur les ailes, ils se sont créés très peu d'occasions très franches et leur but est venu d'une belle course de Bukayo Saka sur l'aile et son centre qui va trouver la tête de Jude Bellingham, mais vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent à part ça pour les Anglais. Le jeune Jude Bellingham, qui n'a que 20 ans d'ailleurs, a sans doute été l'étoile du match et a démontré encore une fois à quel point il peut être un joueur considéré comme étant clutch, autant pour le Real Madrid comme il l'a fait lors de la saison passée, que pour l'Angleterre comme il l'a fait lors de ce match-ci. Cependant, là, les trois Lions devront vraiment trouver un moyen de produire plus s'ils veulent se rendre jusqu'au bout dans cet Euro. On passe donc à la pause publicitaire et on revient dans quelques minutes pour parler des groupes D, E et F. Rebienvenue à ce premier épisode d'Au cœur de l'Euro. On va désormais enchaîner avec le groupe D dans lequel on retrouvait la France, les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne. Le premier match du groupe opposait les Pays-Bas et la Pologne. La Pologne qui arrivait dans ce match sans son capitaine et vraiment talisman de sa sélection, l'attaquant Robert Lewandowski, qui s'était blessé quelques jours avant le match. Les Pays-Bas se retrouvaient également dépourvus de l'un de leurs meilleurs joueurs, le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong. Malgré tout, c'est un match que les Néerlandais devraient sur papier remporter assez facilement. Par contre, c'est la Pologne qui va ouvrir le score après une quinzaine de minutes de jeu, gracieuseté de leur attaquant de 1m90, Adam Buksa, lorsqu'il va rediriger un corner de la tête. Sans être particulièrement étincelant, les Pays-Bas vont quand même réussir à revenir au score grâce à l'attaquant de Liverpool, Cody Gakpo. Et finalement, à la 89e minute de jeu, donc en toute fin de match, ben c'est un autre grand gaillard, Wout Weghorst, qui va donner la victoire aux Néerlandais. Ça fait donc une victoire pour les Pays-Bas, mais quand même quelques sources d'inquiétude face à une équipe dont ils auraient dû disposer assez facilement. L'apport offensif néerlandais, d'ailleurs, est venu d'une source très peu attendue. Le défenseur gauche Nathan Ake, qui joue son football de club avec Manchester City, mais c'est lui qui a délivré les passes décisives sur les deux buts de son équipe. Dans l'autre match, on avait un duel extrêmement intéressant entre la France et l'Autriche. D'un côté, on avait probablement l'équipe avec le plus de profondeur de tout l'Euro, la France. On peut évidemment compter sur l'un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé comme capitaine, ou encore sur le retour en équipe nationale de l'un des chouchous du monde du foot, le milieu de terrain N'Golo Kanté. Et ces deux noms-là, ce ne sont que deux parmi une panoplie de joueurs de calibre mondial qu'on retrouve dans l'effectif français. Bon, la France, on les connaît assez bien. Évidemment, ils ont été finalistes des deux dernières Coupes du Monde et elle a été championne en 2018. Mais elle est définitivement l'une des équipes favorites là, pour remporter la compétition. Par contre, en phase 2, on a une équipe de l'Autriche qui est selon moi l'une des plus intéressantes de toute la compétition. Pourquoi? Ben, plusieurs joueurs autrichiens sont issus du même système, qui est le système Red Bull. Ça consiste en quoi, ça, exactement? En fait, il s'agit de la compagnie de boissons énergétiques Red Bull, qui possède des clubs un peu partout à travers le monde. Ils en ont au Brésil, ils en ont aux États-Unis, mais ils en ont également à Salzbourg en Autriche et, vous l'aurez deviné, à Leipzig en Allemagne. Leur mentalité est assez claire, c'est de développer de bons jeunes joueurs et de pratiquer un foot agréable pour l'œil, caractérisé par ce que l'on appelle du gegenpressing. C'est un style de jeu qui est très agressif, qui consiste à mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. C'est un style de jeu qu'on retrouve habituellement en football de club, puisque c'est une stratégie qui demande beaucoup de pratique à appliquer et à mettre en œuvre. Et l'architecte là, du système Red Bull, c'est l'Allemand Ralf Rangnick. Il fait partie de l'administration des clubs Red Bull depuis plusieurs années et il est désormais l'entraîneur-chef de la sélection autrichienne. Les joueurs sont donc déjà très familiers avec son système, à un point tel que l'Autriche est probablement la sélection qui joue le plus comme un club. Si l'on passe au match, ben ce fut une lutte chaudement disputée avec l'Autriche donnant quand même pas mal de fil à retordre à une France qui est, sur papier, bien supérieure. Finalement, la France va quand même l'emporter 1-0 grâce à un but contre son camp causé par une belle percée de Kylian Mbappé. Mais par contre, quelque chose me dit que l'Autriche n'a vraiment pas dit son dernier mot dans ce tournoi. Après cette première journée d'activité dans le groupe D, on retrouve donc les Pays-Bas en première place, la France en deuxième, la Pologne en troisième et l'Autriche en quatrième. Passons désormais au groupe E, dans lequel on retrouve la Belgique, l'Ukraine, la Roumanie et la Slovaquie. Le groupe E fut définitivement le groupe des surprises là, lors de cette première journée d'activité, et ça a débuté avec la Roumanie qui a donné une réelle leçon de foot à l'Ukraine. L'Ukraine que, personnellement, moi je voyais comme l'une des équipes à suivre de cet Euro, avec énormément de talent à toutes les lignes du terrain et plusieurs joueurs qui viennent de vivre la saison de leur carrière. On peut penser notamment aux deux attaquants Viktor Tsigankov et Artem Dovbyk en Espagne cette année avec Girona ou encore le gardien du Real Madrid, Andrei Lunin. Alors que de son côté, la Roumanie possède l'effectif considéré comme le moins dispendieux de toutes les équipes de l'Euro. Et pourtant, avec seulement 30% de possession du ballon, ben, les Roumains ont trouvé le fond du filet trois fois, dont avec deux superbes frappes de l'extérieur de la surface. La Roumanie s'est également démarquée à l'extérieur du terrain avec ses partisans qui ont créé une superbe atmosphère au Allianz Arena de Munich. Si vous cherchez donc une équipe potentiellement Cendrillon à suivre tout le long du tournoi, ben la Roumanie pourrait bien être pour vous. Le match s'est donc terminé sur la marque de 3-0 en faveur de la Roumanie. Dans l'autre match, on retrouvait la Slovaquie contre la Belgique. Et la Belgique qui rentrait dans ce groupe-là comme vraiment le grand favori pour terminer premier, mais qui a également été victime d'une mauvaise surprise, s'inclinant sur la marque de 1-0. Les Slovaques ont marqué le seul but du match avec à peine 7 minutes de jouer, et ensuite leur défense s'est chargée du reste pour les 83 minutes restantes. On peut notamment penser aux prestations des défenseurs Milan Škriniar et David Anko, ainsi que le gardien Martin Dubravka, qui ont connu de solides performances. Le capitaine de la Belgique, l'attaquant Romelu Lukaku, a cru deux fois ramener son équipe à l'égalité, mais les deux fois ses buts ont été refusés par l'assistance vidéo. La première fois pour hors-jeu et la seconde fois pour une main. Malgré un très bon effectif, surtout à l'offensive, la Belgique connaît depuis quelques années plusieurs problèmes à l'interne qui semblent limiter les performances sur le terrain. Avant le tournoi, par exemple, il a été annoncé que leur gardien partant et l'un des meilleurs au monde à son poste, Thibaut Courtois, ne serait pas sélectionné dans l'équipe. Pourquoi? Il était déçu de ne pas avoir été nommé capitaine de la sélection par le nouvel entraîneur Domenico Tedesco. Comme de fait, le gardien qui le remplace comme partant, Koen Castils, a été fautif sur le seul but du match en donnant un retour de tir qui est tombé dans les pieds du Slovaque Ivan Schranz. Terminons donc avec le groupe F dans lequel on retrouve le Portugal, la Turquie, la Tchéquie ainsi que la Géorgie. Ce dernier groupe-là d'ailleurs nous aura donné deux matchs extrêmement divertissants et le premier qui opposait la Turquie à la Géorgie est déjà considéré comme l'un des grands classiques de ce tournoi. On y retrouvait des partisans super crinqués, on voyait sur le terrain deux équipes qui jouaient sans peur et à la hauteur de leur capacité et on a également assisté à plusieurs buts magnifiques. Finalement, c'est la Turquie qui a eu le dessus sur la Géorgie sur la marque de 3-1. C'est vraiment le genre de match où tu es capable de distinguer le foot de sélection du foot de club. En club, par exemple, les joueurs sont beaucoup plus habitués de jouer ensemble, ce qui donne souvent des tactiques un peu plus abouties. Mais dans ce match, c'était vraiment de l'action sans arrêt d'un côté à l'autre du terrain. Les tirs vont d'ailleurs finir 22 à 14 en faveur de la Turquie, ce qui est très 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 impressionnant pour un match de foot. D'ailleurs, les deux premiers buts de la Turquie ont tous deux fait les manchettes et seront sans l'ombre d'un doute dans la discussion là, des plus beaux buts du tournoi. D'abord, on a eu droit à une superbe reprise de volée du défenseur Mert Muldur, puis ensuite une frappe enroulée de l'extérieur de la surface de la jeune star du Real Madrid et de la Turquie Arda Güler. Dans le deuxième match, on retrouvait le Portugal qui affrontait la Tchéquie. C'est d'ailleurs un match qui avait lieu à Leipzig et, ben, croyez-le ou non, j'étais sur place dans le stade pour y assister. En fait, moi, j'étais en charge du poste de bénévole qu'on appelle Stadium Bowl. C'est-à-dire que mes collègues et moi, ben, on s'assurait que tous les spectateurs trouvaient bien leur section, qu'ils étaient assis au bon endroit et que si jamais il y avait des enjeux avec certains billets, ben, on était là pour les régler. Par exemple, un enjeu qu'on a eu à gérer, il y avait un groupe de 4 partisans tchèques qui étaient dans la section des ultras portugais. Évidemment, les Portugais n'étaient pas trop contents de la situation, alors on a dû trouver une solution à ce problème-là. Pour ce qui est du match, ben, j'ai trouvé que le Portugal était très peu menaçant en début de match. Malgré tous les éléments offensifs qu'il possède, je les ai trouvés plutôt décevants à ce niveau-là. Je trouvais notamment que Cristiano Ronaldo, probablement le plus grand joueur portugais de tous les temps, l'un des plus grands joueurs de tous les temps tout court, talisman de cette sélection-là, et capitaine également, ben Ronaldo il ralentissait beaucoup le jeu de son équipe, surtout lors des transitions offensives. Mais en deuxième mi-temps, le Portugal a commencé à augmenter un peu plus le tempo, mais ça c'est quand même avant que la Tchéquie prenne les devants de manière assez surprenante grâce à une superbe frappe de l'extérieur de la surface. La Tchéquie ensuite défendait quand même très bien jusqu'à ce moment-là, mais juste après, on a le Portugal qui a égalisé grâce à un but contre son camp d'un défenseur tchèque qui n'y pouvait malheureusement rien sur la séquence, mais qui va quand même s'en vouloir beaucoup. Et finalement, ben, dans le temps additionnel, le Portugal va trouver le moyen de l'emporter grâce à deux remplaçants qui vont combiner. Tout d'abord, l'ailier Pedro Neto qui va effectuer une magnifique course sur l'aile gauche, puis le jeune Francisco Conceição qui va compléter au premier poteau. Et à ce moment-là, le stade va complètement exploser. C'était du délire, c'était vraiment un incroyable moment, non seulement pour un fan de foot, pour un bénévole, pour la planète foot en général. Et ce fut également une excellente manière de mettre fin à cette première journée de match à l'Euro 2024. C'est donc sur cette note que se conclut le premier épisode d'Au cœur de l'Euro. J'espère que vous avez apprécié. Et comme vous pouvez le constater, ben, cette formule-là est un peu un projet pilote. Alors, ben, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'émission, tout d'abord, ben, je vous remercie énormément. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et ensuite, n'hésitez vraiment pas à me contacter, que ce soit sur mon adresse Usherbrook ou sur mes réseaux sociaux, si jamais vous avez des commentaires. Ça me fait le plus grand des plaisirs de partager ces informations-là avec vous. Mais je suis également là pour apprendre. Donc, n'hésitez vraiment pas avec vos commentaires. Je serai tout ouïe. Sur ce, on se retrouve donc vendredi le 28 juin pour parler du deuxième jour de match de cet Euro 2024. Ici Vincent Gianjoppi qui vous remercie à nouveau et qui vous dit à vendredi.